Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque semaine pour Mélève et Malka. Je dis chaque semaine, mais en fait c'est un véritable plaisir de vous retrouver le samedi soir, car d'habitude nous avons rendez-vous avec Nora Bani, mais avec Maria Chadri, nous avons rendez-vous le vendredi après-midi. Eh bien, l'émission, pour des raisons que tout le monde comprend, pour des raisons d'horaire et de Shabbat, passe le samedi soir. Et donc, Ravili Lemel, Shavuatov.
Shavuatov.
Shavuatov à vous, en espérant que vous avez passé un beau Shabbat plein de lumière. Et comme nous faisons chaque semaine, nous survolons ensemble la paracha, le texte que nous lisons dans nos communautés le samedi. Et j'utilise toujours cette expression le samedi, alors qu'en fait, nous, on la lit tout le temps, mais bon, c'est celle du samedi. Et on arrive à Toldot. Alors, Toldot, c'est un paracha très riche. C'est d'ailleurs la paracha où. C'est la seule paracha où les trois avots sont ensemble, paraît-il.
Exact. Et
c'est vrai, j'ai raison.
Exact, oui, complètement.
Ah, c'est beau. Hein. C'est là, ils sont vivants tous les trois. Et donc Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et on a un épisode qui est très connu, qui fait même partie du patrimoine mondial. Ça a dépassé le judaïsme depuis très longtemps. C'est comme beaucoup de choses qu'ont fait les juifs. C'est le fameux passage où Yitzhak doit bénir ses deux fils. Et par un stratagème, c'est Yaakov qui obtient la bénédiction de son père. Et c'est absolument énigmatique, parce que tout est incroyable. Comment on fait des choses pareilles, comment, hein, c'est incroyable. Alors, il doit se jouer quelque chose, et il doit y avoir une explication. Alors, plusieurs d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous ce soir, Ravili Lemel, à ce sujet?
Alors, justement, concernant cette fameuse histoire de bénédiction, moi, j'aimerais revenir au début de la paracha, parce que là, vous êtes en train de parler de la fin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé au début. Et le début, c'est quoi? C'est justement cette fameuse vente du droit d'aînesse, n'est-ce pas? C'est le moment dans lequel, en effet, eh bien, on va voir, comme dit le texte, Esav qui revient des champs, ou Aïef, il est fatigué, Yaakov préparer ce fameux plat de lentilles qui a été confectionné parce que c'est justement le plat de deuil parce que Avraham vient de disparaître, et d'un Esav qui lui dit « Enfourne-moi littéralement de ce rouge-là, j'en peux plus », et Yaakov qui lui dit « Bon ben, pas de problème, mais dans ce cas-là, tu me vends ton droit d'aînesse ». Et un Esav qui répond et qui dit « Bon, de toute façon, on quitte tous un jour ce monde, à quoi sert véritablement pour moi ?» ce droit d'aînesse, et il dit, bah vas-y. Et alors le texte va nous dire là-bas quelque chose en plus de très curieux, c'est que Yaakov, Nathan, Esav, Lechem, on dit d'Anachim, qu'à ce moment-là, Jacob donne à Esav du pain, et puis le plat de lentilles, Esav mange, boit, se lève, et dit le texte, il méprise littéralement la Bechora, ce qu'on appelle en français le droit d'aînesse. Alors évidemment, il se passe quelque chose ici de fondamental, et c'est un petit peu le préambule à ce que vous évoquiez tout à l'heure, dans les fameuses bénédictions que Yitzhak va donner à Yaakov, pensant que c'est Esav, mais le point d'entrée, il se situe quand même dans le début de cette paracha. Tout d'abord, qu'est-ce qui se joue dans la relation entre les deux frères? Qu'est-ce qui se passe? On a un texte qui nous décrit un Esav qui semble être en mouvement. Un texte qui nous parle d'un Esav qui est Saïd, qui part à la chasse, qui est bassadé, qui est dans le champ. Donc, a priori, quelqu'un qui est en mouvement, qui est impliqué dans la vie, qui fait des choses. Et puis, d'un Jacob qui est Ishtam Yoshev Walim. Un homme tam, simple, pas dans le sens de simplet, mais tranquille, intègre, on va dire, qui est installé à Olim, dans les tentes. Alors, on voit a priori donc quelqu'un qui semble être en mouvement et quelqu'un qui au contraire est statique. Or c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que Esav fait des cercles et Yaakov fait des droites. Esav, lui, au fond, c'est celui qui va à la chasse, c'est-à-dire celui qui va chercher à ramener dans ce qui fait partie de son univers, ce qui va pouvoir lui apporter quelque chose à lui, pour lui, à l'instant présent. D'ailleurs, le texte nous dit, le Targum Yonatan, la traduction de Yonatan, le Targum Yonatan sur le texte nous décrit un Esav qui cherche au fond le calme et la tranquillité. Mais ces mouvements, au fond, ne sont là, pardonnez-moi de lire de cette manière un peu peut-être réductrice, que pour s'offrir des vacances, c'est-à-dire pour vivre dans un ici et maintenant. Alors qu'on a un Yaakov qui est installé, mais dans une maison qui n'en est pas une, dans une maison qui est mobile, puisque c'est une tente. Et nous savons qu'en effet, le lieu de l'étude, c'est la tente, parce que la Torah n'est contingente ni à un lieu, ni à un temps. Et justement, ce que l'on croit être cette dimension immobile, c'est l'expression d'un désir de mouvement perpétuel, d'une avancée et d'une linéarité dans un mouvement, et ce mouvement étant bien sûr quelque chose qui tend vers un absolu qui est la rencontre et le contact avec le divin. Et alors, là maintenant, justement, ils se rencontrent. Et alors, Yaakov est là face à Esav, et Esav lui dit au fond, « Moi, ça ne m'intéresse pas de rentrer dans le détail des choses. » Il dit, « C'est rouge, ça me suffit. Si je rentre dans le détail, si je mets en mots, on dirait aujourd'hui, ce que sont les choses, alors peut-être que je les verrai différemment. La vision d'Esav, c'est à trop vouloir mettre en mots les choses, et bien au bout d'un moment, on s'y confronte de la manière la plus réelle possible, et là, peut-être qu'on a une relation différente avec ces choses. » Et Yaakov lui dit, « Ok, donc dans ce cas-là, tu peux me vendre la Bechora. » La Bechora, c'est quoi? Bechor, l'aîné, c'est un enseignement que j'avais entendu il y a de nombreuses années du Rav Grunstein, il faisait remarquer que le mot aîné, Bechor, Bet, Kaf, Resh, c'est le Bet a comme valeur numérique 2, le Kaf 20, le Resh 200. C'est l'aîné dans les unités, dans les dizaines, dans les centaines, dans le sens où il est le numéro 2. C'est quoi le numéro 2? Mais il est l'aîné. Non, il est le numéro 2, c'est le second père. C'est-à-dire c'est celui qui est censé transporter vers les autres ce qu'il a reçu du père. De manière beaucoup plus vaste, on peut tous être un aîné. C'est-à-dire qu'on peut tous s'inscrire dans cette responsabilité de transmettre justement, de transmettre le message de Yitzhak, de transmettre le message d'Abraham, et ça n'est pas intéressé. Et ça, au fond, on ne voit pas pourquoi à un moment il s'inscrirait dans la nécessité de transmettre un message qui l'empêchera de vivre la vie telle que lui la conçoit, telle que lui la voit. Il laisse ça à d'autres. Et donc, à ce moment-là, eh bien, Yaakov, néanmoins, a une précaution supplémentaire qui est passionnante. Et Yaakov, d'abord, donne à manger du pain. Alors, on va dire, bon, mais qu'est-ce que la Torah a-t-elle besoin de vous donner le menu ici? La Torah vous donne le menu parce que Yaakov ne veut pas profiter d'une éventuelle faiblesse d'Esav pour pouvoir s'approprier quelque chose. Yaakov se dit, au fond, peut-être que Esav, de par sa faim immense, de par sa fatigue, eh bien, ne pense pas vraiment à l'implication des mots qu'il est en train de dire. Donc, si je le rassasie, si je lui donne d'abord du pain, comme le texte nous dit, « Velechem levav enosh nisarat », que le pain est un élément qui rassasie l'humain, alors peut-être qu'à ce moment-là, avant de consommer le plat de lentilles, puisque le deal, pardonnez-moi l'expression, se fait sur le plat de lentilles, peut-être qu'il va reprendre ses esprits, il va dire « Est-ce que véritablement, je suis d'accord, je vais jusqu'au bout ?» Et il peut se retirer, puisque tant qu'il ne s'est pas approprié le plat de lentilles, ben, il ne s'est rien passé. Et alors là, Yaakov lui donne, et ils savent non. Il consomme, il se rassasie d'abord de ce pain, et puis il continue à manger, et dit le texte en effet, vaïvèze. Et c'est intéressant parce que la notion de bisayon, bisayon c'est faire honte, c'est mépriser, c'est-à-dire que Esav montre le peu de cas qu'il fait du message qu'il est censé transmettre, qui est le message d'Abraham et qui est le message d'Yitzhak. C'est passionnant parce que on va voir dans l'histoire que Esav, eh bien, sa tête va rouler dans le caveau des patriarches. C'est-à-dire qu'on sait que Esav va mourir d'une manière assez singulière et sa tête va rouler dans le caveau des patriarches, elle va y être enterrée. Disent nos maîtres, entre autres, pour nous dire qu'au fond, intellectuellement parlant, peut-être Esav a entendu le message d'Abraham, il a entendu le message de Yitzhak. Il trouve que c'est un beau message, mais ça reste dans la tête. Ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que ce message transforme son existence, il ne veut pas se placer, comme on dit en philosophie, dans l'épaisseur de sa pensée. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est mevasé. Il est mevasé, non pas peut-être le message, il ne méprise pas le message, mais cette responsabilité du Bechor, cette nécessité qu'il a en tant que Bechor, en tant qu'aîné, d'être celui qui va faire en telle sorte que ce message s'inscrive dans une réalité extrêmement concrète. Et donc, bien sûr, on comprend beaucoup mieux ce qui va se passer par la suite, comme vous l'évoquiez au début, le moment où Yaakov va récupérer les bénédictions de son père. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, eh bien, on peut imaginer que, au fond, le peuple d'Israël, parce que justement il a ce message d'Abraham et de Yitzhak, va peut-être se déconnecter d'une réalité matérielle et on va se focaliser surtout sur une forme de spiritualité exacerbée et puis le reste, au fond, on passe à côté. Et Rivka, la mère, est parfaitement consciente que c'est totalement faux, que justement, tout le message d'Abraham et de Yitzhak, c'est d'inscrire cette vision du monde dans une réalité matérielle, dans une réalité physique, dans un monde du ici et maintenant. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, alors que Yitzhak, lui, pense que peut-être Esav a besoin de bénédictions matérielles, parce que quand il sera rassasié, bon, ben, peut-être qu'il passera autre chose. Rivka est en train de dire non, pas du tout, et c'est sa voix qui émerge, c'est sa voix qui est vraie. Et d'ailleurs, on se rend compte que Esav, au fond, lorsqu'il s'en rend compte, eh bien, va dire « C'est quoi ce Yaakov qui, par deux fois, m'escroquait ?» Alors que quand vous regardez le texte, c'est complètement faux, et plus que cela. Et Yaakov était d'une vigilance extrême, il s'est dit « Mais peut-être que Esav est en état de souffrance, c'est pour ça qu'il me dit ça. » Mais ça, c'est le problème que l'on a avec Esav, c'est qu'il reconstruit l'histoire, il la réinvente, il la retraduit de la manière dont ça l'arrange, parce que tout simplement, confronté à son échec, eh bien, il a besoin de trouver chez l'autre le responsable plutôt que de s'interroger par rapport à lui-même. Ça nous donne évidemment un point de départ d'une réflexion sur non pas tant Esav et qui est Esav, et vous savez, parce que ça peut être très réducteur, mais peut-être beaucoup plus sur, au fond, qu'est-ce que ça veut dire être Yaakov ? C'est quoi être capable justement d'être vigilant pour ne pas profiter un moment de la faiblesse de l'autre, mais d'être capable de comprendre ce que veut dire être le Bechor, c'est-à-dire véhiculer, non pas seulement intellectuellement, mais dans les actes et de manière extrêmement concrète au quotidien, le message des Avot, le message de nos patriarches et de nos matriarches. Et c'est à cela que la Torah, évidemment, nous invite, entre autres, à travers ce texte.
Alors vraiment, là, je suis saisi de ce que je viens d'entendre, Raph, parce que je ne savais pas que même Esav peut être, entre guillemets, un... Je dis entre guillemets parce qu'on a bien compris que l'exemple pour nous c'est Yaakov, mais pouvait être un exemple. Et vous savez qu'il y a de très nombreuses personnes aujourd'hui qui considèrent que les choses restent dans la tête. Par exemple, moi, la Tzedaka par exemple. Ah oui, c'est une belle idée, ok, mais est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que, bien sûr qu'on fait un peu, mais finalement on la laisse dans la tête parce qu'on n'a pas envie vraiment d'y aller, de se faire mal, de se pincer le cœur. Et c'est intéressant parce que tout ce que vous venez de nous dire vient de Esav, pas de Yaakov. C'est intéressant.
Exact. C'est tout l'enjeu d'ailleurs, c'est ce que je traduisais tout à l'heure, par se placer dans l'épaisseur de sa connaissance, c'est-à-dire comprendre véritablement ce que l'on est et ce que l'on dit, ce que l'on apprend à travers le fait qu'on est capable de le vivre. Et d'ailleurs, et on peut conclure là-dessus, c'est ça le fameux nom de Yaakov, Ekev. Yaakov, on dit, il s'appelle Yaakov parce qu'il saisit le talon de Esav. Le talon, par ailleurs, la Torah, et je ne vais pas faire un développement là-dessus, nous renvoie à ces petits actes que l'homme a l'habitude de mépriser. Et au fond, Esav, il méprise quoi ? Eh bien, ces petits actes, vous savez, ces téphilines, cette agitation de l'oulav, enfin voilà, ces petits tocs obsessionnels, n'est-ce pas ? Par contre, évidemment, l'ampleur des prières, why not ? Et c'est ça qu'est Yaakov. Yaakov dit, non mais c'est pas vrai, ça se joue là-dedans. Ça se joue dans ces choses que nous-mêmes, d'ailleurs, on risque parfois de mépriser en disant nous sommes au-dessus de ces contingences bassement techniques. Qu'est-ce que ça change véritablement ? Dieu n'a pas vraiment besoin de nos gesticulations, de nos gestes, de nos grammages de matzah, voyons. Et justement, c'est ça notre nom.
C'est là que ça se passe. Incroyable.
C'est là que ça se passe et c'est là où, en effet, on comprend qu'il y a autre chose qui se passe. Et c'est pour ça, évidemment, il faut ouvrir et se mettre à l'étude.
Ravili Lemel, merci. On a appris de belles et grandes choses ce soir grâce à vous. Shavua Tov. On part pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shavua Tov.
Shavua Tov, Mazel Tov, Yom Yisachol Tov.
Que des bonnes choses pour vous à Jérusalem. Et on continue notre réflexion
sur la paracha de cette semaine. Alors vous, vous vous posez une question, vous dites, mais pourquoi est-ce que finalement il fallait que ces deux frères soient nés le même jour ? Quand même extraordinaire. Pas très très difficile pour Dieu, les faire naître, on va dire, avec 3 ans de différence. Ça règle beaucoup de questions. Ça... Pourquoi faut-il qu'ils naissent le même jour ? Alors, quelle est la réponse que vous avez trouvée dans les propos de nos Chachamim ?
Ah, effectivement, c'est une question qui est fondamentale parce qu'on observe que ces deux individus vont avoir deux trajectoires complètement différentes. Mais la question, c'est que ces deux individus sont nés, finalement, de la même maman. C'est pas comme, par exemple, Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël est né de Hagar et Yitzhak est né de Rivka. Donc là, ici, c'est la même... Pardon, de Sarah, excusez-moi. On reprend. On peut reprendre, Bernard ? Allô ?
Oui, oui, bien sûr.
On reprend. Je reprends mon explication. Oui, effectivement, donc c'est une question qui se pose à la lumière du fait que, par exemple, Ishmaël est né de Hagar et Yitzhak est né donc de Sarah, donc de deux mamans différentes à deux moments différents. Mais là, ici, c'est quelque chose qui a interpellé Rivka elle-même. Elle-même, elle s'est posé la question. Elle s'est dit, mais c'est, je sens que j'ai en moi ici deux individus qui sont deux individus qui ont des tendances complètement différentes, telles que c'est d'ailleurs exprimé donc, dans le Midrash. Rashi le cite, hein, Rashi cite ce commentaire au sujet donc du chapitre du chapitre 25 verset 22. Et là, elle est partie interroger les prophètes de l'époque pour comprendre ce qui se passait. Et là, on lui explique qu'il y a Shnei Goyim et Bitner, qu'il y a deux peuples. Donc elle-même, elle s'est interrogée sur ce fait-là. Pourquoi j'ai ces deux tendances en moi et ces deux-là vont sortir au même moment ? Alors la réponse est la suivante. La réponse, elle est que la Torah ici veut nous apprendre que deux individus qui sont nés de la même maman, du même papa, du même acte intime, le même jour, à la même heure, dans la même ville, ils ont un mazal qui est rigoureusement le même. Eh bien, chacun va utiliser ce mazal, en quelque sorte, ces forces, cette confluence de forces, de manière complètement différente. Et en fait, ce que les Chachamim nous disent ici, au travers, ce que nos sages viennent nous enseigner, au travers de ce que la Torah nous raconte, c'est que l'individu est complètement libre. Ils sont nés tous les deux, au même moment, à la même heure, avec les mêmes forces, et ils ont deux trajectoires complètement différentes. Ils sont complètement libres. Et finalement, cette paracha, elle vient nous enseigner ici qu'il y a une liberté totale de l'homme, alors que cet individu peut, avec son frère jumeau, être né d'un tzaddik parfait. Et donc, ce principe fonctionne exactement dans la même manière pour deux personnes qui seraient nées d'un homme et d'une femme qui seraient des réchaïm, qui seraient des impies. La même chose, l'individu est libre. Il ne peut pas dire « mes parents sont complètement responsables de ce que je suis devenu ». De la même manière, les parents ne peuvent pas non plus dire « mes enfants sont les seuls responsables de ce qu'ils deviennent ». Si les parents parlent comme ça, alors ils ne peuvent pas réparer. Mais quand un fils ou une fille dit « mes parents et la famille à laquelle je suis né sont entièrement responsables de ce que je suis devenu », alors il ne peut pas, il va passer son temps chez des psychiatres ou des psychanalystes, il va les engraisser, mais il ne va pas faire son travail. L'individu est libre. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un homme qui a essayé, quand il a eu des épreuves, de contrer cette règle absolue de la liberté et de la responsabilité de l'individu. Et dans la Gemara de Baba Batra, à la page 16, nous raconte que Job, a voulu absoudre l'humanité de toute forme de jugement. Et donc il s'est adressé à Dieu, il lui dit « Écoute, voilà, tu as créé le taureau avec des sabots fendus, tu as créé l'âne qui a des sabots d'une autre manière, tu as créé le Gan Eden, le Gehinnom, les tzadikim, les justes, les réchaïm. Qui peut t'empêcher de faire quoi que ce soit ?» Autrement dit, ça veut dire ce que tu as créé, finalement, a créé un certain déterminisme. Les choses sont telles qu'elles sont. Et ses amis vont lui répondre, dit la Gemara. Il lui dit « C'est faux. Akadosh Baruch Hu a créé le Yetzerara, le mauvais penchant. Il lui a créé une antidote qui s'appelle la Torah. » Quel est le sens de ce midrash ? Quel est le sens de cet enseignement de la Gemara dans Baba Batra ? C'est qu'en fait, Yov est venu et a dit « Mais je suis dans le déterminisme, je suis déterminé. » Et les sages et ses amis vont lui dire « Mais pas du tout. » Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui est un monde de possibilités. Esav avait la possibilité d'utiliser la tendance qu'il avait pour détruire les maisons d'idolâtrie. D'ailleurs, certains Mefarshim, certains commentateurs veulent le dire. Ils veulent dire que quand Esav voulait sortir pour aller dans pour aller quand Rivka passait devant une maison d'idolâtrie que Esav voulait sortir, en fait il voulait sortir pour la détruire. Donc il avait une tendance positive en lui. Il ne voulait pas sortir pour aller adorer les idoles. Non, il voulait sortir pour aller la détruire. En fait, ces deux forces sont présentes chez Esav. Ou détruire les maisons d'idolâtrie, ou au contraire se prosterner devant les idoles. Et lorsque Yaakov, par exemple, donc lorsque Rivka passe devant une maison d'études, Yaakov veut sortir. Il veut sortir pourquoi ? Pour aller étudier la Torah, mais aussi peut-être simplement pour une curiosité qui ne va pas mener jusqu'à son terme. Donc les individus sont libres et ils vont devoir faire des choix. Et on peut passer sa vie à accuser les autres. J'ai lu une histoire savoureuse que Rav Israël Abergel raconte. Il dit, une fois, il y a un type qui est engagé comme directeur général d'une boîte. Alors, l'ancien directeur général le convoque, lui dit, écoute, voilà, je vais te faire faire un tour de la boîte. Il lui fait faire le tour de la boîte, des usines et tout, etc. Et puis, il lui dit, voilà, j'ai laissé 3 enveloppes pour toi. Quand tu auras des difficultés, tu les ouvriras. Petite difficulté, tu ouvres la première enveloppe. Grande difficulté, tu ouvres la deuxième enveloppe. Très grande difficulté, tu ouvres la troisième enveloppe. Et voilà que notre ami qui est engagé comme directeur général, au bout de 6 mois, a des problèmes. Et là, il se rappelle qu'il y a une enveloppe dans le bureau. Alors, il l'ouvre et il y a un mot dedans. Il dit « accuse l'ancien directeur général ». Alors, il va voir le conseil d'administration. Il dit « vous savez, l'ancien directeur général, il m'a laissé une situation vraiment ingérable. J'ai tout à réparer ». Bon, on le laisse tranquille. 6 mois plus tard, il y a à nouveau des problèmes. Il se rappelle qu'il y a une enveloppe que l'ancien directeur général avait suivie. Et là, il l'ouvre et là, il lui dit « accuse le gouvernement ». Alors, il retourne, il dit, on a un gouvernement bidon, ils font n'importe quoi, ils s'attaquent aux pauvres, ils amènent les réformistes, ils ont tué les commerces et tout, etc. Bref. Alors bon, les gens le laissent tranquille. 6 mois après, il a à nouveau des problèmes. Et là, il se rappelle qu'il y a une enveloppe. Alors il va, il ouvre l'enveloppe, et dans l'un, il y a un mot qui lui dit, prépare 3 enveloppes pour le prochain directeur général. Alors vous voyez, c'est ça la vie finalement. On peut toujours accuser les autres d'être responsable de ce qu'on est, de ce qu'on est devenu, de ce qui nous est advenu, de ce qui est advenu dans notre existence. Et on peut comme ça complètement refuser de prendre ses responsabilités dans les situations que l'on traverse. Et finalement, ce que nous apprend ici la Parasha, c'est que la course de la vie finalement, c'est la course à la responsabilité. Est-ce que oui ou non, tu prends la responsabilité de ce que tu es ? Oui, effectivement. A pu te mettre dans des situations qui sont des situations entre guillemets ingérables. Oui, il y a des gens qui naissent avec des tendances, des désirs qui ne sont pas du tout en accord avec leur conscience et ils vivent des véritables déchirements. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Est-ce qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui est fait pour être surmonté, qui est fait pour être combattu, qui est fait pour être géré ? Ou alors est-ce qu'au contraire, ils sont comme Job dans cette tentative de déterminisme, enfin, ils se laissent aller. Et ça, c'est ce qui est fondamental, c'est ce qu'on voit ici dans la paracha. Deux individus qui sont nés au même moment, du même tzadik, de la même tzadikette, ils peuvent prendre deux directions de vie complètement différentes parce que l'homme est complètement libre et ce qui est attaché à cette liberté, c'est sa responsabilité. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet.
Très bien, je vais essayer de ne pas avoir à rédiger 3 enveloppes pour un futur rédacteur en chef de Radio Shalom, j'ai bien compris. Je vais essayer de prendre mes responsabilités tout de suite. J'ai pas osé rire au milieu de votre drachat. Mais oui, l'homme est totalement libre et c'est tellement difficile de conjuguer ça après avec ce qu'on appelle le joug divin, Ol Malchut. Mais en effet, liberté totale, c'est d'ailleurs le principe. C'est le principe du jeu, si on peut appeler ça un jeu. Je peux vous accepter le mot jeu, Mordechai.
Oui, le principe du jeu J-E.
La partie.
Jeu J-E.
Ah, voilà.
C'est le principe du jeu.
C'est le principe du jeu.
C'est que l'individu comprenne que ce jeu-là, il est formé de plein de choses. Le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya, l'Echida, 5 niveaux d'âme, une quantité d'informations emmagasinées dans son Mazal, une quantité de forces qui ont présidé à sa venue au monde. Et donc, si l'individu comprend à la fois, si vous voulez, la complexité de son être et en même temps la richesse des forces qui sont les siennes, il comprend qu'en fait, il peut dans sa vie actionner certaines forces contre d'autres forces. C'est l'enjeu finalement aussi de toutes les thérapies qu'on mène aujourd'hui dans un esprit de Torah, qui est de faire découvrir aux gens la richesse de leur personnalité quand au contraire, ils pensent qu'ils sont complètement coincés dans une logique de conflit ou dans une logique de perte. Non, au contraire, il y a de multiples forces en eux et l'âme est riche de forces. Donc, ils peuvent effectivement affronter ce qui les oppresse, ce qui les compresse, et ils peuvent sortir de ça.
Le philosophe Emmanuel Levinas, qui a eu cette particularité d'être le philosophe qui a fait rentrer la Gemara, le Talmud, à l'université, à la Sorbonne, comme un texte qu'on étudie avec d'autres. Et il disait, je place le tu avant le je. Vous savez, on dit je, tu, il. Il dit, non, moi je mets tu, je, il. Mais je crois que les Chachamim ne sont pas forcément d'accord avec cette histoire. Ils disent, non, d'abord je, c'est un bon jeu, un jeu qui agit bien, après... Enfin, je sais pas. Peut-être le sujet de votre prochaine drachat, vraiment, des habitants.
Oui, c'est, c'est une interaction. Lévinas, effectivement, a certains mérites d'avoir quand même ouvert les portes à une réflexion plus intelligente et plus à propos sur la Gemara, sur le Talmud, chez les intellectuels français, avec, bon, toujours comme toujours, des dérives qu'on peut éventuellement critiquer. Mais c'est vrai qu'il a introduit une nouveauté. Bon. Une autre fois, on en parlera.
Absolument. Allez, c'est votre prochain cours. On va d'abord finir toutes les parachutes, puis après on fera ce cours-là. Rav Mordechai, je vous remercie. Et de nouveau, Shavua Tov. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Nous sommes en ligne à présent avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chah.
Bonsoir, Shavua Tov,
quel plaisir de se retrouver le samedi soir. C'est autre chose, c'est un autre moment et c'est Shavua Tov. Maria Chadré, on continue avec vous la lecture de notre paracha. Et vous avez envie d'intervenir sur un sujet un peu inédit, que j'ai rarement entendu. Comment sortir d'une vision manichéenne des relations entre Yaakov et Esav. Alors c'est vrai que pour nous, c'est un peu le bon et le méchant, quoi, si on veut. Mais non, vous dites qu'il faut essayer de sortir un peu de cette vision trop facile, trop manichéenne, des relations entre les deux frères.
Alors oui, des relations entre les deux frères, et je dirais même également des relations entre les parents et les enfants. Comme si, et c'est vrai que le texte nous y invite presque en disant que Yitzhak, c'est un verset écrit textuellement dans la paracha, Yitzhak aimait Esav parce qu'il lui mettait du gibier dans la bouche, dit le verset 28, et Rivka aimait Yaakov. Alors là, on a l'impression que les dés sont joués dès le début. Il y a un qui est aimé par le père et l'autre est aimé par la mère. Et puis la mère va venir et puis va réussir à faire ce qu'il faut faire pour donner les bénédictions que Isaac avait promis de donner à son fils Esav, et bien de les faire passer au fils aimé, au fils Yaakov. Et comme vous le dites, il y a le gentil, il y a le méchant, il y a celui qui veut le droit d'aînesse et donc la responsabilité, et l'autre qui dit « Oh, bah, de toute façon, je vais mourir, à quoi ça me sert ?» Alors tout ça, ce sont des versets textuels. Mais on va un tout petit peu sortir de ça. Et il ne s'agit pas du tout ici de préférence. On a vraiment l'impression qu'il y a une préférence du père, une préférence de la mère, et puis quelqu'un qui serait destiné à être le méchant. En fait, pas du tout. Il y a un autre verset écrit textuellement. Quand on relit bien la paracha, on voit que quand Esav grandit et décide d'épouser Yehudit, enfin d'épouser des filles qui étaient des filles Benotret, des filles de Ret, pour dire que c'était des filles idolâtres, donc des filles qui ne correspondaient pas au monothéisme et à la vie, alors je ne peux pas encore dire la vie juive, mais la vie authentique qu'avait transmis Avraham à Yitzhak et Yitzhak à ses enfants, eh bien, Esav a donc pris rapidement ses distances à travers un mariage. Et là, le texte dit textuellement qu'il y a eu, dit le texte, morat ruach, c'est-à-dire que, pour qui ? Pour Yitzhak et Rivka, c'est-à-dire que Yitzhak et Rivka se sont sentis, dit le texte de la Torah, extrêmement affligés, tous les deux ont été affligés de l'attitude d'Esav. Alors, déjà, on sort un petit peu de cette idée que ben, y a la droite et il y a la gauche. Dans ce verset, on les sent alignés. On sent les deux parents alignés par rapport à un comportement inadéquat de Esav. Et pourtant, par la suite, on voit bien qu'Yitzhak souhaite bénir son fils. Alors, on a un petit peu cette image, nous, d'Yitzhak, aveugle, âgé, qui ne voit pas les choses clairement, qui a été trompé par son fils et qui se trompe complètement en voulant donner une bénédiction qui ne lui revient pas. Et en réalité, on peut encore une fois sortir de cette vision-là manichéenne quand on comprend qu'en réalité, ben, finalement, ce qui est vraiment écrit dans le texte, c'est juste que Yaakov est d'une nature à aimer, à être à l'intérieur, à être avec ses livres, et son frère Esav est d'une nature extérieure, d'une nature à aller dans ce vaste monde et à occuper ce monde. Et nous avons tous, dans nos fratries ou chez nos enfants, on sait bien qu'on a celui qui aime être tranquille dans sa chambre avec ses livres, ne m'embêtez pas, je suis bien, je suis tranquille, je suis concentrée. Et on a ceux qui sont des hyperactifs et qui ont tout le temps besoin de taper dans une balle. Pardon pour la... Je vulgarise le concept, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on voit deux natures différentes. Et Yitzhak était affligé de l'attitude des saves, plus que borderline. Mais malgré tout, il veut bénir son fils et les commentateurs nous disent, eh bien en fait, notamment le Chatam Sofer, fabuleux, rapporté par Rabbi Pinchas Friedman, dit que en fait, il a bien vu qu'il avait le premier de classe, c'est Yaakov, qui étudie, qui sera porteur de cette fibre et de cette étincelle spirituelle, mais Yaakov a besoin d'être aidé. Et son frère Esav, eh bien, ma foi, il est tellement débrouillard, il est tellement capable, il est tellement à l'aise dans la vie politique, dans la vie d'entreprise, dans la vie, qu'il va, il a besoin de la bracha matérielle, hein, c'est bien une bracha maternelle que donne le papa, Veiten lecha Elokim, mital hashamaim ou mishmane aretz, que Dieu t'accorde la rosée du ciel et du gras de la terre, c'est-à-dire que tu aies de l'abondance, mon fils, que tu aies de l'abondance encore et encore. Eh bien, cette abondance, il voulait la donner à son fils Esav, afin qu'il puisse partager son gain avec son frère Yaakov, qui lui est fait pour l'étude. C'est un, on dirait aujourd'hui en termes plus modernes, il faut qu'il soit chercheur au CNRS, et ben il faut bien lui apporter les moyens de l'être, parce qu'on a besoin de son cerveau et on a besoin de son étude. Et donc il voulait faire une association du type Issachar et Zevulun. Mais là où Rivka a dû intervenir, c'est qu'elle savait bien qu'Esav, ayant pris déjà la distance qu'il a prise, eh bien, sa bénédiction matérielle, il ne l'aurait jamais mise au profit de son frère Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle elle intervient. Elle dit, bah, finalement, Yaakov, qui est le détenteur de cette étincelle spirituelle, devra également avoir la bracha matérielle, la bénédiction matérielle, parce que sur son frère Esav, on ne peut pas compter. Et à partir de là, on est encore une fois, alors on a une vision peut-être un peu plus large, mais on a tendance encore une fois à se dire, aïe, ben voilà, encore une fois, le gentil, le méchant. Et finalement, bon, ben, Rivka qui n'aimait pas son fils Esav, eh bien, voilà, elle a fait en sorte que tout aille pour l'autre fils. Alors, on comprend sa posture, mais enfin, bon, eh ben, n'empêche que Esav se retrouve derrière le mal-aimé. Et on a inversé avec un Rashi que j'adore, qui nous demande, qui nous enjoint de surtout ne pas avoir cette vision-là. Alors, le verset, dit, c'est après avoir reçu la bénédiction, donc elle entend, Rivka entend son fils Esav dire « j'attends que mon père meure et là je tuerai Yaakov pour me venger de ce qu'il m'a fait ». Elle entend cela. Et du coup, elle décide d'envoyer son fils se réfugier chez son frère à Padan Aram. Et donc, elle en fait part à son époux Yitzhak. Elle lui dit, voilà, je veux qu'il... Alors, elle ne lui donne pas la vraie raison, c'est la première chose. Elle ne lui dit pas, sache que j'ai entendu et savent dire qu'il veut tuer son frère. Hein. Et puis, nous, lecteurs de la Torah, on sait qu'on a déjà vu ça. Hein. C'est Caïn et Evel. On dirait un remake de Caïn et Evel, un fratricide. Donc, elle est... Mais elle ne dit pas à son mari. Elle ne le dit pas parce qu'il y a des lois de la Shonara. Et même s'il s'agit de son propre fils, ce qu'elle dit à son mari, et pour ne pas briser l'image que son mari aurait de leur fils Esav, elle lui dit « Je vais renvoyer Yaakov, je l'envoie chez mon frère pour qu'il y trouve une femme, parce que je veux qu'il trouve une femme comme il faut, pas une femme parmi les filles de Chet. » Très bien. Mais là, il y a une précision du verset qui nous ouvre notre réflexion par rapport à ce qui se joue ici. Yitzhak est d'accord. Et donc, dit le verset, je suis dans le chapitre 28, 5e verset, Yitzhak envoie Yaakov à Padan Aram chez Lavan. Lavan lui-même, fils de Bethuel, l'araméen, qui est le frère de Rivka. On sait bien qui est Rivka. Mais le verset continue et nous dit Rivka aime Yaakov v'Esav. Rivka elle-même étant la mère de Yaakov v'Esav. Alors ça fait depuis le début de la paracha qu'on sait que Rivka est la maman d'Yaakov v'Esav. Pourquoi nous préciser que Lavan, on nous dit que c'est le frère de Rivka, il n'y a pas de problème. on resitue les personnages, mais nous dire qu'il y a dans ce verset, à la fin, nous sommes à la fin de Toldot, quelques versets avant la fin, que Rivka est la maman d'Yaakov et Esav, c'est extrêmement étrange. Je me pose sur Rashi, pourquoi cette précision ? Et là, on a un Rashi phénoménal qui dit la chose suivante, « Eini yodea mamelamdo ». Je ne sais pas, dit Rashi, je ne sais pas ce que ce verset vient nous enseigner. Alors, je voudrais décortiquer ce Rashi. Il est magnifique. Nous, spontanément, quand on lit « Maman de Yaakov et Esav après tout ce qui s'est passé » et cette pauvre maman qui entend son fils dire « je tuerai mon frère », c'est terrible. Et elle dit « je ne veux pas vous perdre tous les deux, sous-entendu, j'aurais perdu et la bourreau et la victime ». Donc, on sent une empathie terrible vis-à-vis de Rivka qui entend une phrase pareille. Et le verset vient dire qu'elle est la maman de Yaakov et Esav. Alors, spontanément, on a envie de dire « ah, le verset vient valider qu'elle n'a rien diminué de l'amour qu'elle porte à son fils. C'est son fils, c'est le fruit de ses entrailles. Et qu'il soit comme il faut ou pas comme il faut, ça reste son fils et elle croit en lui et elle espère et elle prie pour sa teshuva. Mais ça serait trop facile, dit Rashi. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète Rashi. Rashi dit, je ne sais pas ce que ce verset vient nous dire. Je ne sais pas. Alors, de deux choses l'une, si Rashi ne sait pas, il peut ne rien écrire. Mais s'il veut écrire quelque chose, c'est qu'il le sait. Donc en fait, je crois que de façon extrêmement subtile, Rashi vient dire ici, si vous pensez que la Torah est venue vous confirmer que cette maman aime toujours ses deux enfants, mais ça c'est une évidence. Mais ça c'est évident enfin. Comment peut-on imaginer, même si son fils file du mauvais coton, et c'est le moins qu'on puisse dire, comment imaginer que Rivka a renoncé à son fils ? Eh bien, parce qu'on pourrait avoir l'impression, quand elle a orienté la bénédiction vers Jacob, qu'elle a renoncé à son fils. Sachez que c'est impossible de dire ça sur Rebecca. Elle ne peut pas renoncer à son fils. Et donc, je ne sais pas ce que ce verset vient nous enseigner. Donc, en disant « je ne sais pas ce qu'il vient nous enseigner », de façon extrêmement subtile, il nous enseigne que c'est une évidence que cette maman n'a pas renoncé à son fils, et d'autant plus qu'on voit qu'elle ne travestit pas l'image de son fils Esav aux yeux de son époux Isaac. Et donc on a ici, je crois, un enseignement exceptionnel hein, qu'on pourrait beaucoup développer. J'invite nos auditeurs à développer la recherche par rapport au ressenti des deux parents de Rebecca et d'Isaac sur leurs deux fils jumeaux qui sont tellement différents et pourtant, pour lesquels, je crois que c'est ça qu'il faut retenir, les deux parents ont continué à croire pleinement en leur potentiel, tellement qu'Yitzhak voulait donner cette bénédiction matérielle à son fils, mais son fils est réellement, c'est extrait de l'histoire d'Avraham et d'Yitzhak, et c'est la raison pour laquelle c'est Yaakov qui a transmis finalement par la suite aux 12 tribus la bénédiction spirituelle et la bénédiction matérielle. Ce que nous avons à retenir, je crois, de cette paracha, c'est qu'on aura, nous aussi, tous forcément, des enfants qui ne nous ressemblent pas, qui peut-être nous frustrent, qui ne sont pas au niveau de nos attentes, de nos espoirs, de peut-être de tout ce qu'on projette en eux, mais restons tous M, Yaakov et Esav, restons tous les parents à la fois de Yaakov et d'Esav, et c'est en continuant à les aimer, à croire en eux, en imaginant les infinis potentiels qu'ils contiennent, finalement qu'ils feront émerger d'eux la plus belle partie d'eux-mêmes.
Magnifique, hein, c'est très beau ce que vous venez de nous dire. Et surtout, on dit souvent que Rashi a un point de vue, alors que lui-même se définit comme un strict commentateur. Le meilleur ami de celui qui étudie. Et c'est lui, il est juste là pour commenter. Mais les plus forts disent non, il y a un point de vue, Rashi. Dans pourquoi il commente ça, pourquoi pas, pourquoi comme ci, comme ça. Et là, on a un exemple qui est étincelant.
Colossal. Ouais.
Étincelant, magnifique.
Ouais, tout à fait.
Maria,
chaque mot de Rashi est interprété, bien sûr. Bien sûr.
J'en souris de plaisir. Et je vous souhaite... Shavua Tov, une bonne semaine d'études et de réflexion.
Très
et on
belle
va penser
semaine à
ne pas faire sans s'en rendre compte, parce que nous, on n'est pas du niveau des Avot. Sans s'en rendre compte, on va essayer de ne pas faire de préférence entre nos enfants. Je vous remercie, Maya Chadré.
Exactement.
Bonne semaine.
Merci, à bientôt. Shavua Tov.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Donc, nous avons tous noté que Kabbalat Shabbat passe le samedi soir. et que cette émission de pensée juive et de Torah devient désormais Melavé Malka. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et Shavua Tov.
Shalom loy boy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoyim.